régie, tout l'eau qui murmure. Tout l'eau, du ciel et de la terre, tout l'eau concentrée au cœur glacé d'un verre. Je ne demande rien qu'un verre d'eau glacée. Vous ne voyez donc pas mes doigts brûlants de fièvre, mes doigts tendus vers l'eau qui fuit mes pauvres lèvres, sèches comme une plante à la tige cassée. Qui me torture est celle des grands sables où galope toujours le simoun. Je ne pense qu'à ce filet d'eau merveilleuse, intarissable, des poissons heureux circulent. Transparence, fraîcheur, est-il rien d'autre au monde que j'implore? Ce que je veux, une...
Mais tu se marres dans les castes. Nos cerveaux et s'agitent à l'envie pour nous défaire. La vie se triste. La vie serait moche. Alors, alors je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, libre et combat.
Nietzsche.
Je porte un toast à tous ceux qui on luttait pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
C'est toujours Radio Libertaire, c'est toujours 89,4 MHz. Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. C'est l'émission Idéaux et débats du jour qui commence. C'est la dernière émission de l'année, et oui, une année riche, où on a reçu beaucoup d'auteurs, où on a lu plein de bonnes choses. Et on termine avec deux ouvrages, deux romans. Le premier, il s'agit d'un roman intitulé « Les terres animales » de Laurent Petit-Mangin, qui est paru à la Manufacture de Livres. On aime bien Laurent Petit-Mangin. Et ce livre est intéressant parce que... parce qu'il se passe en France, il se passe dans l'Est, mais cette région a été sinistrée par un accident qui est survenu dans une centrale nucléaire, et Laurent Petit-Mangin nous donne à voir une communauté de personnes qui tentent de s'organiser au mieux pour vivre. Ils ont décidé de rester là pour des raisons précises que vous découvrirez en lisant l'ouvrage, mais en tout cas c'est un ouvrage passionnant, et c'est pour donc la première partie de cette émission. En seconde partie, on retrouvera Clémentine Hennel pour un roman qui est paru chez L'Arpenteur, chez Gallimard, roman intitulé « Plein phare », où il est question de beaux personnages, trois personnages assez étonnants, qui chacun, à sa manière, vit une situation d'enfermement très différent. Et on va en parler donc avec Clémentine Hennel. Voilà pour le programme de cette émission, cette dernière émission de l'année. On retrouve tout de suite Laurent Petit-Mangin, Les terres animales, à la Manufacture de Livres. pour Radio Libertaire 89,4 MHz. C'est l'émission Idéaux et Débats et c'est avec grand plaisir que nous retrouvons Laurent Petit-Mangin pour son nouveau roman qui est paru aux éditions La Manufacture de Livres. Et ce roman a un très beau titre, il s'appelle « Les terres animales ». On en parlera d'ici quelques instants. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce roman, Laurent Petit-Mangin, et j'étais très étonnée parce que c'est un livre qui détonne un petit peu dans les courants littéraires actuels, et ça fait du bien, parce que c'est un sujet qui n'est plus trop abordé, ce type d'histoire, on le voit plus vraiment. On le voyait dans les années 70, avec une partie du courant de science-fiction qui pouvait présenter ce type d'ouvrage. Et là, bah, ça fait du bien. Alors, comment vous est venue l'idée de ce livre ?
C'est un livre qui est venu en deux temps, vraiment. C'est-à-dire que j'ai écrit une première histoire autour d'un groupe d'amis, de cinq amis, mais qui ne se passait absolument pas dans des terres hostiles et animales, qui se passaient aux États-Unis. Mais c'est une histoire qui n'avait pas retenu réellement l'attention de mon éditeur. Et bon, j'en étais un peu désolé, parce que je trouvais que c'était... En tout cas, ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire une histoire sur l'amitié. Et je l'aimais bien, mais voilà. Donc c'est un projet qui s'est arrêté comme ça, que je laissais vraiment tomber, c'est le cas de le dire, et qui a ressurgi à l'écoute d'une émission sur Fukushima, où on avait c'était une très belle émission. Je dirais vraiment en fait de silence et de bruit de compteur. Hein, donc c'était et où on entendait en fait des personnes assez âgées qui voulaient absolument rester dans cette zone. Et c'est là où finalement les choses se sont assemblées. Je me suis dit, mais finalement cette histoire d'amitié, alors c'est pas du tout la même que celle que j'avais précédemment écrite, mais je me suis dit cette histoire d'amitié, je vais la loger dans un monde qui est un peu difficile, enfin en tout cas dans un territoire qui est un peu difficile. Le reste du monde, je pense, tourne entre guillemets normalement. Je veux dire, donc c'est pas, pour moi en soi, c'est pas réellement une dystopie. C'est-à-dire que le monde, c'est pas arrêté de battre. Bref, il continue. Bon, bien, mal, on sait pas trop d'ailleurs, mais en tout cas, il continue sur sa lancée actuelle. En revanche, effectivement, il y a ce territoire qui est un peu figé désormais par cet accident nucléaire. Mais Comme on peut en avoir, encore une fois, comme on en a déjà deux, hein, comme on a Tchernobyl d'un côté et Fukushima, quoi.
Oui, tout à fait. Mais moi, c'est ce côté-là qui m'a intéressée. C'est parce que avant de parler des personnages, il faut parler du lieu et du décor qui est extrêmement important. C'est pas pour rien que ça s'appelle les terres animales, d'ailleurs, parce que cet endroit, vous l'évoquez avant, par le biais de réminiscences d'un des personnages. Et vous nous le donnez à voir largement après. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas, c'est pas comme ces livres post-apocalyptiques à la Mad Max ou autres. Non, non, la nature est là, comme elle est là à Tchernobyl, comme elle est là à Fukushima. Elle est même plutôt prolifique parce qu'il n'y a plus personne quasiment pour s'en occuper. Et moi, j'ai adoré votre description du décor.
Oui, c'est un décor qui a été le mien pendant toutes les semaines d'écriture du livre, et je dois dire que c'est un décor qui me faisait plaisir chaque soir, c'est-à-dire chaque soir je me remettais à l'écriture et honnêtement j'ai trouvé beaucoup de presque de paix à habiter ce décor. Alors bon, encore une fois, ce décor, pourtant, il est plutôt hostile.
Hein, il est rude.
Mais il y avait un plaisir à être dans ce massif, vraiment de beaux arbres, des résineux, et de me balader, certes en combinaison, mais de me balader dans ce massif. Donc effectivement, c'est un lieu que je n'ai pas voulu on va dire, trop caricaturale, même pas du tout. Au contraire, enfin, c'était tout l'objet, de toute façon, de ce livre, c'était d'éviter justement des clichés qui pouvaient être associés à ce type d'histoire. L'idée, c'était au contraire d'essayer de retrouver une normalité presque. Et maintenant, enfin, je serais presque à dire, bon, il y a presque un côté, pour certains des personnages, hein, presque un côté petit bourgeois, hein, à ces personnages. Mais je veux dire, c'est totalement assumé. C'est-à-dire que justement, j'avais pas envie d'en faire des gens qui étaient trop bien formés à ça. Parce que bon, bah, sinon, ça perdait un peu de son attrait. Il fallait que ça soit des personnages qui soient finalement très, très lambda dans leur
très
façon
de
voir les choses, mais qui vont, par la force des choses, se construire et se développer et arriver à trouver de nouveaux équilibres.
Alors, ce qui est important de préciser, justement, c'est que ces personnages n'avaient pas de rapport particulier à la centrale. Elle était un élément du décor et ils s'en foutaient complètement. Elle était là, c'était pas des écolos, c'était pas des antinucléaires. Ils étaient totalement désaffectés par rapport à ça.
Oui, il y en a même un qui est charpentier de formation, qui avait sa petite entreprise de bâtiment et qui a même été d'ailleurs contribué pas à l'édification de la centrale, mais aux locaux techniques qui entourent la centrale. Donc effectivement, ils étaient loin d'être, je dirais, ennemis de cette centrale. C'est-à-dire, bon, le narrateur, il dit, bon, elle faisait un petit peu injure à la beauté des bleus, mais finalement, bon, on l'a supporté quand même, quoi. Et c'était ça, vraiment, oui, tout l'objet un peu de ce texte, c'était d'arriver à avoir des personnes qui vont se construire et qui vont évidemment se construire un avis après ça, mais qui au départ n'ont rien n'ont rien d'antinucléaire aguerri, militant, voilà, c'est cinq amis beaucoup plus on a Lorna, oui, peut-être qui est peut-être la plus militante qui travaille sur des nouvelles cultures. Elle est ingénieure agronome, elle travaille sur de nouvelles cultures. Donc, bon, effectivement, elle, on peut se dire qu'elle a sa préhension des choses est peut-être plus forte. Mais les autres, bon, objectivement, étaient assez éloignés de tout ça, oui. Ouais.
Forgiving. please boy, a time and a place for us. Oh my hell, and we're hell with her. Hold my hand and I'll take you there somehow. Someday
que quand l'incident survient, vous ne faites pas non plus dans le spectaculaire. D'ailleurs, il est à peine évoqué, cet incident. Il y a quelques lignes sur ce qui a pu se passer qui reviennent par-ci, par-là. Mais on n'est pas dans « je vous en mets plein la vue, je vous terrifie ». Ce n'est pas de cet ordre-là. Et c'est pour ça que le livre est beaucoup plus fort encore.
Ouais, ce qui... En fait, j'ai voulu décrire l'accident, en montrant un petit peu, bon bah évidemment le côté immédiatement vain des choses que l'homme derrière peut faire, c'est-à-dire que l'homme après avec toute sa bonne volonté va essayer effectivement d'envoyer des hélicoptères sur zone, va envoyer des engins, va envoyer bon mais le mal est fait quoi. Je veux dire c'est le mal a une telle puissance, l'accident ça a une telle puissance que bon malgré tout ce que l'homme va pouvoir trouver comme solution de mitigation du risque, je sais rien, c'est dérisoire. Et c'est le seul aspect que j'ai voulu donner, en fait. C'est-à-dire cette ronde des hélicoptères, par exemple, qui survolent le chantier, c'est l'arrosage permanent du lieu de l'accident. Mais bon, finalement, on se rend compte que l'arrosage lui-même devient complètement inefficace. Donc voilà, j'ai voulu montrer un peu le côté, inexorable et vain de l'action de l'homme une fois que l'accident est intervenu. Mais l'accident lui-même finalement ne m'intéressait pas. Enfin, je voulais pas faire un aspect sensationnel autour de ça, quoi. C'est plus derrière comment l'homme a essayé de tenter quelque chose. Et encore, enfin c'est qu'une partie très petite du livre finalement.
Oui, tout à fait, parce que ça sert à planter en fait le décor et les conditions de vie des personnages, puisque la zone va être quadrillée, encerclée, abandonnée, et que ces personnages vont faire ce choix de rester sur zone. Et ça va être l'élément important du livre.
Oui, c'est alors pour deux d'entre eux, on le sait dès la troisième page, je crois. Je le révèle, c'est parce que leur petite fille est enterrée là, et que pour Sarah, la mère, il est hors de question finalement. Bon, même si je pense que les autorités lui ont proposé de transférer la dépouille ailleurs, bon pour la mère il y a pas de, enfin je veux dire c'est impensable quoi, c'est-à-dire que sa fille a toujours vécu dans ce massif, dans ce petit village, donc et elle restera là, et donc elle sa mère va rester là également. Bon, pour les trois autres c'est un peu moins dit. Bon, ça fait un peu partie du privilège de l'auteur de pas avoir à rentrer dans l'explication à chaque fois pour chacun. Bon, disons qu'il, je pense que les trois autres se laissent prendre au jeu, se laissent prendre à cette espèce de d'utopie un petit peu de reconstruire quelque chose par amitié. Donc voilà comment je dirais peut-être qu'au tout démarrage ils se sont dit on va rester juste quelques semaines, et puis finalement on se dit on va rester quelques années, et ils y trouveront leur compte. En fait, ce qui est important, c'est que cette communauté enfin ces cinq personnages principaux trouve son compte finalement dans le fait de rester, parce qu'ils y gagnent une liberté, ils y gagnent une nouvelle façon un peu de vivre.
Oui, justement, et c'est ça aussi qui fait que le livre est pas manichéen et que c'est pas de la drama. Dans Les Terres animales de Laurent Petit-Mangin, paru aux éditions La Manufacture de Livres, on voit les aspects à la fois positifs et négatifs de ce type de vie, comme vous l'évoquez, c'est-à-dire qu'ils sont dans une espèce de vacances permanentes, ils sont entre eux, ils s'aiment bien. Oui, il y a une espèce de dimension quasi utopique dans un monde qui est devenu un monde assez infernal à vivre, où on ne peut pas vivre. Et c'est ça qui m'a intéressée. Il y a un autre élément qui est extrêmement important, Laurent Petit-Mangin, c'est le rapport au temps. Et comment ce rapport au temps se modifie entre l'avant et l'après.
Oui, et c'est ce rapport au temps, c'est quelque chose vraiment qui me, à titre personnel, pour le coup, qui me fascine. Et à bien des reprises, je me suis dit, mais finalement, cette histoire, par exemple, de pacte, un peu de se dire, tiens,
j'ai 3 ans.
Qu'est-ce que je préférerais, quoi, avoir quelques années et avoir toute liberté pendant ces années-là, ou bon, bah avoir, la vie telle que je l'ai, avec un certain nombre de contraintes. Avec moi, c'est quelque chose. Je me suis toujours, ça m'a toujours intéressé. Est-ce que je me suis dit finalement, par dans le cas, par exemple, de personnes qui sont malades, qui se disent bon, finalement, la maladie va vite me gagner maintenant, va vite prendre le dessus. Bon, j'ai quelques années. Tout ça, ce sont des questions. Je pense que j'écrirai peut-être d'ailleurs dessus encore. Ce sont des questions qui m'intéressent beaucoup. Ce rapport au temps, ce rapport de qu'est-ce qu'on fait finalement du temps. Qu'est-ce qu'on laisse comme postérité, ce sont des choses qui m'intéressent. Et donc là, en l'occurrence, pour mon groupe d'amis, oui, la question du rapport au temps se pose. C'est de se dire, bon, finalement, ils savent très bien. Bon, je pense qu'au fond d'eux-mêmes, ils espèrent tenir bien plus longtemps que ces 3 ans. Mais ils se disent, bon, en tout cas, on a 3 ans. Et on a 3 ans, finalement, de. Je ne veux pas dire de grandes vacances, mais on a 3 ans pour faire des choses qui nous intéressent, qui font sens, et ils continuent d'ailleurs de travailler. Enfin, ils travaillent, mais finalement pour des causes qui les intéressent, quoi, en fait. Oui.
Oui, alors c'est vrai que ces trois ans sont définis déjà par rapport au stock alimentaire qu'ils ont pu constituer. Voilà. Donc ils ont des réserves de nourriture périmées, certes, mais qui sont quand même, les conserves, ça se mange au-delà de la date de péremption. Et donc ils en ont pour trois ans. Et il y en a un qui est chargé donc de distribuer toutes les semaines la nourriture. C'est vrai qu'il y en a un qui est plus chargé de l'intendance, l'autre qui est plus dans le bricolage. Vous évoquiez Lorna qui a fait agro et qui donc va se lancer dans les cultures. Sarah, elle est une ancienne sage-femme, donc elle va remplir le rôle de plus en plus important du médecin, parce qu'il y a un vieux médecin au loin, mais il commence à perdre un peu les pédales. Oui. Voilà, donc chacun se constitue un nouvel équilibre dans ce monde nouveau.
Oui, c'est et encore une fois, enfin, j'ai voulu décrire cet équilibre de la façon la plus douce possible. À tel point, pour tout dire, que parce que bon, le livre il est clairement constitué en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a une partie de création de cet équilibre, et puis bon, il y a un moment évidemment
un événement qui va venir
changer l'équilibre. Hein, c'est Et à un moment, je me suis dit, bon, je suis presque trop bien dans cet équilibre. En fait, c'était presque trop plaisant de créer des scènes autour du bien-être de ces cinq personnes. Et d'ailleurs, dans la rédaction du texte, à un moment, je me suis, j'ai volontairement sacrifié des scènes qui appartenaient à cette première partie pour arriver plus vite quand même, pour mettre en scène plus vite l'élément de déséquilibre, pour redonner, je dirais, une vitesse supplémentaire au texte.
Alors, oui, allez-y.
Non, mais effectivement, les cinq vivent finalement assez bien dans des formes nouvelles dans cette urgence du temps. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand même le temps joue un rôle très presque bénéfique sur leur façon de voir les choses, puisque bon, il les engage finalement à pas s'attarder à des
détails,
des choses un peu périphériques, à passer immédiatement à l'essentiel, quoi. Et en tout lieu, quoi. C'est-à-dire, y compris dans les rapports d'amitié, d'amour qui vont pouvoir se mettre en place dans cette petite communauté, c'est arriver finalement à se dire c'est quoi l'essentiel, quoi. Je veux dire, on a trois ans, bon, on va pas les gâcher bêtement pour des petites misères.
Oui, alors on parlera des rapports entre eux d'ici quelques instants, mais c'est vrai qu'on en arrive, en lisant Les Terres Animales, Laurent Petit-Mangin, à un moment à oublier le bruit qui est pourtant l'élément permanent du roman, qui est le bruit du compteur Gégère. Le fait de ne pas pouvoir sortir sans combinaison, sans visière, sans ceci, sans cela, de devoir se décontaminer, mais tout ça, c'est devenu tellement présent qu'on en arrive à l'oublier. Et eux sont un peu comme ça.
Mais en fait, si vous voulez, ça, c'est exactement, et là, je dois rendre grâce au reportage que j'avais entendu, reportage radio qui était d'une excellente qualité. C'est-à-dire que vous aviez les deux. Vous aviez à la fois, enfin, dans mon souvenir, hein, en tout cas, quand je l'ai entendu, il y avait à la fois un immense silence et en même temps il y avait ce bruit permanent du compteur. Et donc je me suis dit, si tu dois te mettre à l'écriture d'un texte comme ça, il faudra qu'il y ait les deux, c'est-à-dire qu'on ressente à la fois le silence mais qu'on ressente aussi le bruit du compteur qui vient rythmer finalement scander chaque seconde de leur vie, enfin qui peut. Bon, et je pense que bon, c'était ça un peu le en tout cas mon objectif un peu de narration, de en tout cas d'installer une atmosphère pour ce territoire.
Alors, il y a ce groupe de cinq personnages, mais très très rapidement dans le roman arrivent des nouveaux qui vont s'installer dans la maison pas très très loin, et c'est un groupe d'ouzbeks. Et ça aussi, ça m'a intéressée parce que c'est des gens différents, parce qu'il y a, le rapport à la langue, à l'étranger, et à l'inquiétude, au fait qu'ils vont tout virer dans la maison. Et moi, ça m'a intéressée que dans cet univers très clos et très fermé, réapparaissent des différences entre les personnages.
Oui, mais j'aime beaucoup ce groupe. Pour tout dire, en fait, j'ai sacrifié un projet de texte. C'est-à-dire que j'avais comme projet d'écrire l'arrivée d'un groupe d'immigrés, de réfugiés dans un village et voir finalement comment le village allait se développer, par quel type de sentiments le village allait passer. Et donc ça, c'était en soi, c'était presque un projet en tant que tel, en fait, d'écrire un roman là-dessus. Et là, je me suis dit que bon, finalement, j'allais peut-être utiliser, en tout cas déjà, cette idée de faire arriver ce groupe. Donc, ce sont des personnes qui ont participé à la liquidation de la centrale, donc qui est quand même un des métiers les plus terribles qui soient, quoi. C'est-à-dire où il y a une prise de risque maximale, et qui finalement ont décidé de rester. Et évidemment, bon, ça me permet ces ouzbeks, bon, ils ont un rôle très important finalement dans la suite du texte, mais leur premier rôle, c'est déjà de montrer que mes cinq protagonistes sont pas parfaits, quoi. Mmh. Parce qu'on va voir que la réaction, en tout cas, de deux sur les cinq est quand même très froide, très empruntée, à l'image de ce qu'on peut être, hein, soyons clairs. Enfin, je veux dire, d'une manière générale, quoi. Hein,
ils sont pas comme nous.
Et c'était finalement le premier intérêt de faire apparaître ces ouzbeks, c'est de montrer que finalement mes gaillards là, ils sont pas beaucoup mieux, enfin ils sont très très lambda là encore, avec des réactions de peur de Et le deuxième point qui m'amusait, c'était de traiter en quelques lignes, mais bon, de traiter quand même la notion de propriété, parce que finalement, bon, les ouzbeks vont demander la permission d'investir une des maisons. Et finalement, bon, on se dit, mais finalement, de quel droit les autres, d'ailleurs, pourraient leur refuser ça, puisque de toute façon, la maison leur appartient pas plus à eux qu'aux ouzbeks. Et bon, je trouvais ça assez amusant, en quelques lignes, de poser cette question. Et puis après, bon, les ouzbeks vont jouer un rôle. Enfin, on va voir que finalement, ils ont un rôle presque de colonne vertébrale, un peu dans ce texte, quoi.
Je tiens d'elle. Ma Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fière, plus fière que celle qu'on pas souffert. Je suis noire, je suis belle, je suis fumée, poussière, vacarme assourdissant. Mais ça, c'était avant.
Il faudra que je parte, mais promis je reviens, poser ma rose fière sur la terre des anciens. Je ferai rugir les gares, les rêves de grands chemins. Il faut bien que je parte pour devenir quelqu'un.
Au quartier du soleil, quand j'apprenais la boxe, pour secouer les grilles de l'avenir branlant, brûlant comme une torche que n'éteint pas le vent, j'ai franchi l'océan. Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fier, plus fière que celle qui n'ont pas souffert. Je savais pas bien comment devenir ce musicien. Partir loin d'elle, ouvrir mes ailes. Quel visage auras-tu demain, ma Saint-Étienne? Ma Saint-Étienne. Il faudra que je parte. Le tramway du désir à 5h du matin, les paupières mi-closes, la musique sur pause, les mains calaminées et les rêves en sursis. La guitare, si lointaine, me parle de pays, d'Amazon en cavale et de femmes fatales. Il fallait que je parte.
Je crache mes poèmes,
je crache mes premières cigarettes. Je gueule dans l'usine morte, les entrailles ouvertes. Milliers d'arpèges dans le garage, chasseur d'orage à vélo. L'aventure c'était les fruits volés, les plans d'eau. Si mon cœur est bizarre, c'est peut-être que mon accent est bizarre. Tous les mots que j'écris jaillissent de ma terre noire. J'ai tordu la vie pour elle, dans ses forges imaginaires. Je suis pas un marin, mais j'ai pris la mer.
Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne. Plus brave que belle, plus frère que fier. Plus fière que celle qui m'a souffert. Je savais pas bien comment devenir ce musicien. Partir loin d'elle, ouvrir mes ailes. Quel visage auras-tu demain, ma Saint-Étienne? Ma Saint-Étienne.
Ou ma première guitare, ma petite espagnole, qui ressemble à un voilier. Le manche a tant souffert sous mes doigts malhabiles, mes rires, mes colères. C'est ma mère qui me l'a offert. Elle m'attend quelque part. Elle m'attend quelque part.
Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fier, plus fier que celle qui m'aura souffert. Je savais pas bien comment devenir ce musicien. Partir loin d'elle, ouvrir mes ailes. Quel visage auras-tu demain, ma Saint-Étienne? Ma Saint-Étienne.
Ah, mais par rapport à la question de la propriété, ça revient de plusieurs manières dans le roman Laurent Petit-Mangin, dans Les Terres Animales, paru à la Manufacture de Livres, puisque quand ils font des expéditions pour se procurer de la nourriture, bon, alors bien sûr, ils vont commencer par les magasins, mais après, ils vont visiter les maisons pour se servir, pour essayer de trouver ce dont ils ont besoin. Et à chaque fois, il y a une forme de... d'impression, ils ont une espèce d'impression de sacrilège au départ, et de culpabilité, et ils se sentent obligés de laisser un mot, quoi, de pas...
Oui, oui, c'est... et d'ailleurs, un des cinq le voit réellement quasiment comme un élément, oui, religieux, quoi, c'est-à-dire, hein, puisque je crois que c'est... Il laisse passer l'Esprit Saint, quoi, en fait.
Oui,
il
en premier, bon, oui.
Rentrer l'Esprit Saint en éclaireur.
Pour éviter la profanation, la
c'est... oui, oui, bien sûr, il y a un élément quasiment sacré à ça, parce qu'ils ont le sentiment vraiment de à la fois d'y être obligés, puisque bon, ils ont besoin des piles, de tout le petit matériel qu'ils vont pouvoir quand même récupérer, plus les aliments, et en même temps ils font ça, ils essaient de faire ça le moins sauvagement possible, c'est-à-dire en laissant la liste de ce qu'ils ont emprunté, en sachant pertinemment. Et c'est ça aussi qui... Ouais. On retrouve un peu la vanité des choses que je montrais sur la gestion d'accidents, c'est-à-dire se dire, bon, finalement, c'est complètement vain, puisqu'ils savent très bien que plus personne ne viendra quand même. Mais il y a un côté où ils le font quand même, parce que ça, c'est à la fois vain, mais beau. Voilà, quoi. Il y a un côté où, ils s'obligent, finalement.
Oui,
En fait, c'est cinq amis qui s'obligent beaucoup à faire un certain nombre de choses qui, sinon, ils auraient le sentiment que tout part complètement à volo et ça va pas, quoi.
Oui, oui, c'est de l'ordre. On évoquait le sacré, mais c'est effectivement ça. C'est de l'ordre du rituel. Et je pense à un autre rituel qu'il perpétue et qui est très important, qui est le match de foot. Ça aussi, il faut faire comme avant.
Alors, en combinaison.
Ouais. Alors, ils essayent d'abord sans combinaison, puis après, quand même, ils remettent les combinaisons. Mais c'est ça, c'est le match de foot, c'est l'après-match, c'est comment garder, un semblant d'humanité.
Oui, c'est comment et encore une fois, ça faisait partie, de l'attrait, je dirais, de l'écriture de ce texte, et de se dire, bon, imaginez finalement, je m'imaginais le sixième larron et comment il est possible finalement de vivre dans ces terres, quoi, et d'arriver à à imaginer des phases de vie, qu'est-ce que ça peut être un match de foot, effectivement, dans une zone irradiée. Ouais.
Alors, bien sûr, les relations entre les personnes existent et sont très complexes, et c'est ça aussi qui fait l'intérêt du livre. Comme vous l'évoquez, Laurent Petit-Mangin, il est important, vu le temps qui est compté, d'aller à l'essentiel et peut-être de passer sur certains points. Et ça donne justement dans les liens entre les personnages des choses intéressantes, et vous explorez un petit peu comme un musicien avec une partition, vous donnez déjà dans la construction du livre, vous donnez la parole à Fred, à Sarah, à Fred, à Sarah.
Oui, j'ai réfléchi à la possibilité de n'avoir qu'un narrateur pour cette histoire, et bon, parce que je trouvais que bon, si j'y avais réussi, bon, il y avait quelque chose d'un peu plus pur, avoir réussi à mener une histoire jusqu'au bout avec un seul narrateur. Mais objectivement, justement, quand il s'agissait un peu de rompre l'équilibre que j'avais créé au cours de cette première partie du texte, je trouvais que la voix de Fred, qui est une voix finalement assez douce, assez peut-être à certains égards assez résignée, n'allait plus pour imprimer finalement ce que je voulais dire. Et donc c'est pour ça que j'ai besoin de la voix de cette femme, de la voix de Sarah pour donner finalement un son de voix un ton qui soit vraiment différent, qui crée des équilibres, qui amène le groupe à penser un petit peu différemment. Donc oui, il y a les voix sont importantes en fait, mais idéalement, bon, je pense que si j'avais pu, je serais resté sur la voix de Fred jusqu'au bout.
Alors on n'en dira pas plus parce qu'on va laisser nos auditeurs découvrir le livre, donc Les Terres animales de Laurent Petit-Mangin, paru à la Manufacture de Livres. Je vais terminer quand même sur un dernier point, si vous voulez bien, qui est l'importance des corps. Parce que effectivement, dans ce décor hostile, dans cet endroit où la mort rentre dans les corps, le rapport se modifie, le rapport des personnages à leur corps et au corps de l'autre est complètement modifié. Et ça, c'est très bien vu dans votre roman, parce que vous évoquez les conséquences de cette modification de point de vue, aussi bien là aussi en termes positifs qu'en termes négatifs.
Oui, il y a là encore, enfin, je pense que c'est très personnel. Enfin, déjà peut-être dans mon roman précédent, il y avait cet aspect de corps. Je crois que je suis pas très à l'aise. Et donc avec ça d'une manière générale, et je crois que ça me permet, enfin le fait d'écrire aussi me permet aussi de parler de ça. Et en tout cas, les corps doivent avoir une importance en fait. Et c'est vrai que par exemple Fred surveille son épouse, surveille et à la recherche d'un mauvais signal, comme quoi la maladie pourrait la gagner par exemple. Il y a le corps de Lorna. Hein, on voit que Lorna a une main, oui, qui est estropiée en fait, hein, qui a été brûlée, et je trouvais que c'était que son corps en devenait presque plus beau encore.
Oui.
Enfin, ce que j'ai à part là, c'est que pour moi, Lorna est plutôt une très belle femme, mais avec cet accident, son corps devient presque encore plus sensible, Donc voilà, oui, le corps a une importance.
Il se regarde tout le temps, en fait.
Oui.
Et ça, c'est intéressant. Parce qu'il se regarde effectivement pour dépister la jaunisse qui apparaît et qui est un signe plutôt péjoratif de maladie, mais en même temps il se regarde aussi en termes de beauté.
Je pense que c'est totalement presque à rebours de ce que je suis dans ma vie. Enfin, je veux dire, j'ai beaucoup plus coincé, beaucoup plus mais en tout cas voilà, dans ce texte je trouvais que c'était assez beau, parce que bon, il y avait évidemment le corps qui est en permanence emprisonné dans la combinaison quand ils sont à l'extérieur. Mais en même temps, justement, ils essaient dès lors qu'ils sont à l'abri, on va dire, dans leur logis, bon, bah, d'essayer de se redécouvrir un peu, de s'observer, de.
Et puis il y a le désir.
Pardon.
Et puis il y a le désir.
Oui, il y a le désir. Il y a le désir de et ça, si je suis honnête, c'est vraiment l'origine même de ce texte, hein, c'est-à-dire que bon, certes le côté accident tout ça, mais vraiment au tout départ, mon but c'était de raconter cette amitié qui est une amitié à la fois éclatante mais très trouble en même temps, parce que bon, il y a ce désir réciproque entre les deux couples, il y a beaucoup d'admiration mais pas que, donc il y a effectivement il y a ce désir qui est et qui était vraiment encore une fois, si ce roman, je pense que je l'avais déjà écrit sous une forme radicalement différente, mais il y avait déjà cette notion de désir entre deux couples, et finalement je l'ai réécrit là sur ces terres animales, ouais, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez fascinant à ça.
Ça s'appelle Les Terres animales, c'est de Laurent Petit-Mangin, c'est à la Manufacture de Livres, et question rituelle, Laurent Petit-Mangin, vous avez déjà des projets maintenant que celui-ci est publié?
J'ai un autre texte qui va sortir en jeunesse, cette fois-ci, enfin donc pour une cible, je pense à partir de 14 ans, qui s'appellera Infiltré, qui sort l'année prochaine, en mars prochain, chez Actes Sud Junior.
Bien, et ben j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver. En tout cas, merci beaucoup pour cette rencontre et merci pour ce livre. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the low man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow, and now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the wrong guy. Oh man, wonder
toujours Radio Libertaire 89,4 MHz, Idéo et Débat, et on a entendu donc Laurent Petit-Mangin qui nous parlait des terres animales, son roman paru à la Manufacture de Livres. Maintenant, nous allons retrouver Clémentine Hennel. Clémentine Hennel pour son livre, roman paru dans la collection L'Arpenteur chez Gallimard, et roman qui s'intitule Plein phare. Clémentine Hennel. Pour Radio Libertaire 89,4 MHz, et c'est avec grand plaisir que nous rencontrons aujourd'hui Clémentine Hennel pour un roman qui est paru dans la collection L'Arpenteur chez Gallimard, et ce roman s'intitule Plein phare. Alors merci Clémentine Hennel d'être avec nous pour parler de ce livre. Moi je vous ai découvert avec celui-ci. Et je l'ai beaucoup aimé parce que c'est un roman qui entremêle les histoires de plusieurs personnages, essentiellement trois personnages principaux dont nous allons parler d'ici quelques instants. Mais ces personnages, au moment où vous leur donnez la parole, sont tous dans une forme d'enfermement. Et moi, ça m'a intéressé de voir cette mise en parallèle justement des trois enfermements, que ce soit Mauve qui est enfermée dans son taxi, que ce soit Yaya qui est dans une unité pour malades dangereux, ou que ce soit le dernier personnage qui lui est en prison. Alors est-ce que c'est un choix, comment est né ce livre?
Bonjour, déjà merci beaucoup de me recevoir, j'en suis ravie. Alors oui, c'est un choix délibéré de travailler sur l'enfermement, qu'il soit volontaire ou contraint. Je parle d'enfermement volontaire pour Mauve, qui bien contrainte de travailler, est chauffeuse de taxi la nuit à Paris, et qui a choisi donc de vivre dans sa voiture, espace traversé par quelques clients avec lesquels elle n'est pas forcément la personne la plus charmante, mais c'est son espace à elle. Et ensuite, elle vit plutôt recluse chez elle avec sa mère. Voilà, donc c'est une personne qui vit en décalé, qui vit hors du monde, plutôt coupée du monde. Elle ne fait que le traverser. Il y a un enfermement contraint après pour Yaya, qui est en UMD, donc c'est une unité pour malades difficiles. C'est quand il est trop difficile pour l'hôpital psychiatrique de secteur de garder certains patients. On peut être envoyé là-bas. On peut être envoyé là-bas aussi quand on a commis des actes criminels et qu'on n'est pas jugé apte à être en prison. Donc c'est un endroit très spécial, c'est un endroit très fermé.
On en parlera un petit peu plus dans quelques instants.
Ok, bien sûr. Et Maddy, lui, se trouve en prison, donc c'est également un enfermement contraint.
Alors, ce sont les trois personnages principaux, mais ils prennent tout leur relief au travers de personnages qui sont au second plan. Et c'est ça aussi qui m'a intéressée, on en parlera dans quelques instants. Mais d'accord, d'emblée, on va peut-être dire un mot sur le titre, ce titre « Plein phare ».
Oui, très bien. Alors, ce titre « Plein phare » fait référence, dans un sens littéral, à la voiture, à Mauve qui conduit de nuit et donc qui, de temps en temps, doit allumer ses pleins phares. Mais c'est aussi et surtout une volonté de mettre les phares, de mettre la lumière, de donner un coup de projecteur sur des thématiques dont on ne parle pas forcément beaucoup, pas forcément peut-être de cette façon en littérature contemporaine. Donc justement, parler des enfermements, parler des solitudes, parler de la psychiatrie, parler de tout ça, j'avais envie de mettre un coup de projecteur, ça me tient à cœur, sur ces thématiques.
Alors tout à fait. On va parler effectivement de ce personnage de Yaya et de son parcours jusqu'à cette unité du CHS Paul Guiraud. Alors, ce qu'il faut préciser d'emblée pour nos auditeurs, c'est que ces trois personnages sont liés, que ce soit par le fait qu'ils se sont rencontrés à l'école.
Ça a été une rencontre, puisque les deux garçons sont arrivés un jour dans la vie de Mauve et que ça a tout bouleversé. Également par leur situation, ce qu'on a évoqué. Yaya, c'est un personnage que j'aime énormément. Parce que c'est un personnage extrêmement touchant. C'est un personnage qui va avoir un parcours de vie tout en sensibilité, délicatesse et en même temps brillant. C'est quelqu'un d'extrêmement lumineux. Et c'est quelqu'un qui, un jour, est frappé par la maladie. Il est atteint de bipolarité. Il a un suivi qui est tout à fait ordinaire. Il s'entend bien avec sa psychiatre au CMP. Mais par un hasard malheureux, enfin un hasard malheureux, par des circonstances malheureuses, il va se retrouver au bout du bout du bout, parce que géographiquement, ce bâtiment, effectivement, de l'UMD est tout au bout de Paul Guiraud.
Oui.
Tout à la fin. Cet endroit est un endroit dont on ne parle jamais. Vous avez raison, Clémentine Hennel, de l'évoquer dans Plein Phare, donc ce roman paru chez Gallimard, parce qu'on n'en parle pas, on parle de la prison, pas assez, mais on en parle quand même, mais les UMD, on n'en parle jamais.
Oui, tout à fait. Moi, ça me tenait vraiment à cœur de parler de cet UMD et des UMD en général. Donc, il y en a 10 en France, il y a environ 500 patients qui y sont hospitalisés, et ce sont des lieux très particuliers, très verrouillés, des sortes d'hôpitaux-prisons, qui sont pourtant censés être des lieux de soins. Donc Yaya se trouve là-bas, oui, voilà, il a un parcours plutôt classique. C'est une personne malade, mais il y a beaucoup de gens malades, ce n'est pas une honte. Donc il traverse différentes phases, des hauts, des bas, et suite à des événements malencontreux, des choses qu'il n'arrive pas à contrôler, il se retrouve aussi hospitalisé, et puis une altercation avec un infirmier à l'hôpital, il se retrouve envoyé en UMD. Et l'UMD, c'est très compliqué d'en sortir, donc c'est une hospitalisation sans consentement. Oui.
Trapped. It fell into a crack. 11 tries lead in the way, and then 4 sad comes. I've lost my sense of it all. The feelings I can't resolve. Circumstances outside convention, and you know I tried to be part of life. Meanings I couldn't recall. Not found, did my lose, and now it's tough to find. Playing games with my mind, up the drops that I climbed. In the abyss I was hurled into by what I brought back. Set me
Oui, c'est une hospitalisation sous contrainte, c'est une hospitalisation judiciaire, même si là, on le voit pour Yaya, j'allais dire, il fait peut-être partie des petits joueurs, parce que c'est vrai qu'il a, il a commis un geste vis-à-vis d'un soignant, mais il est surtout le frère du tueur, et c'est ce qui fait qu'il va se retrouver là.
Oui, c'est ça. Le frère de Yaya, Madi, a été arrêté. C'est un tueur en série. Et donc, il y a toute cette ombre du frère qui pèse sur Yaya et qui joue en sa défaveur. Et donc, Yaya va se retrouver enfermé là-bas. Et c'est vrai qu'après, on rentre dans un système judiciaire. Pour sortir de l'UMD, c'est très compliqué. On échappe vraiment au seul suivi hospitalier. Là, il y a la justice, il y a l'État qui rentre en ligne de mire, et donc ça devient compliqué d'en sortir. Et oui, Yaya est plutôt un petit joueur, hein, et c'est pour ça que moi, c'est par ses yeux que je voulais aborder l'UMD. Donc, il y décrit les autres patients, il y décrit ses liens avec l'équipe soignante, notamment avec un infirmier qui est un personnage secondaire qui s'appelle Sekouba.
Qui est un bon personnage aussi.
Oui, je l'aime beaucoup, ça me touche beaucoup, je l'aime beaucoup, j'ai essayé de le travailler avec justesse, j'espère ne trahir personne en écrivant sur ces sujets. Et Sekouba, en fait, on a son point de vue à lui aussi, notamment son point de vue sur ce jeune qui arrive, Yaya. Sekouba, il est assez triste, assez dépassé par la situation, parce qu'il y a un manque de personnel, un manque de moyens. Lui, il a travaillé en hôpital psychiatrique classique pendant des années, il avait envie d'aller en UMD, de faire la différence, d'être humain avec ses patients, et il se rend compte qu'il est maltraitant malgré lui à certains moments, parce que il y a pas assez de bras, il y a pas assez de soutien, il y a pas assez de moyens dans l'hôpital public. Et je pense que la psychiatrie et les UMD sont des lieux clos, des lieux à l'ombre, et que ce sont des lieux qui manquent cruellement de moyens en France, même si on peut tomber sur des soignants exceptionnels. Il y a aussi la réalité des choses qui fait que c'est compliqué.
Bah, concrètement, les UMD ne sont plus des lieux de soins. C'est des lieux où on garde des gens qui sont étiquetés potentiellement dangereux. Et donc, l'idée, c'est de les maintenir dans cette captivité sous contrainte, sans que ça fasse de dérapage. Et donc, on le voit très bien au travers, justement, des réactions de Sekouba. Lui, il vient pour soigner, et en fait, il se retrouve là pour garder. Et c'est uniquement cet aspect-là qui rentre en ligne de compte. D'ailleurs, il le dit à un moment où ils sont en effectif encore plus restreint. Il s'édate les patients pour les faire tenir, pour leur faire passer la journée, quoi, pour pas qu'il y ait de clash. Oui.
Et ça, c'est une vraie histoire. Je me suis beaucoup, beaucoup renseignée. J'ai bien fouillé. Les patients d'un UMD, alors là, je sais plus lequel, il me semble que c'est peut-être Villejuif, mais je sais plus, ont été tous sédatés pendant 24 heures. Il me semble que c'était le pavillon des femmes parce qu'il n'y avait pas assez de personnel. Donc, on a laissé les gens dans leur chambre complètement sédatés. Voilà. Donc, ce sont des choses qui ont pu être faites dans les UMD en France. Et oui, c'est vrai que c'est un lieu juste où on garde, on doit contenir, maintenir une, je mets des guillemets, menace potentielle. Et que il y a eu beaucoup d'UMD qui ont été créés. En fait, il y a un étudiant, non, c'était un monsieur, je crois, qui est sorti de l'hôpital psychiatrique classique, qui a tué un étudiant. Et ensuite, Sarkozy a décidé de multiplier les UMD et de renforcer la sécurité de ces lieux. Donc, en fait, c'est juste mettre les gens dans un endroit pour qu'ils ne bougent pas, et c'est les maintenir quelque part pour éviter de possibles dérapages. Mais voilà.
Alors, celle que vous décrivez, Clémentine Hennel, dans Plein Phare, donc ce roman paru chez L'Arpenteur, c'est une très très ancienne. Elle existait avant les mesures édictées par Nicolas Sarkozy. Ça remonte quasiment, ça a des dizaines et des dizaines d'années, ce qui n'est pas un gage d'amélioration ou de réflexion sur les pratiques qui sont effectuées. C'est sûr qu'au niveau éthique, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Mais ce qui est intéressant, c'est le chemin que Yaya va faire dans ce lieu. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Alors, bien sûr, il va voir ce qui s'y passe, mais il va lui-même faire un chemin thérapeutique, entre guillemets, et en tout cas un chemin de retour vers la vie.
Oui, tout à fait. C'est un roman qui traite de thématiques assez sombres, assez dures, mais tous les personnages sont à un moment de crise, mais ils cherchent chacun, chacune à leur façon à revenir vers la vie. Et Yaya, dans ce lieu, donc il y a un parcours, c'est très codifié. Voilà, si on se comporte bien, on change de pavillon pour accéder à la sortie, qui est un retour à l'hôpital psychiatrique classique. Et on va voir Yaya évoluer, changer de pavillon petit à petit. Et on va le voir s'interroger sur son passé, sur comment il a grandi, sur ce à quoi il aspire en fait dans la vie, et se demander ce qu'il a envie de faire, comment est-ce qu'il a envie de vivre, essayer de mettre la douleur de côté, essayer de mettre certaines choses de côté. Donc il revisite son histoire familiale, notamment ses liens avec son frère qui l'ont bien bousillé, et ses liens avec sa mère, et on le voit essayer de vivre petit à petit pour lui en fait.
Beautiful boys, but illegitimately to a whore, most likely he became an orphan. Oh, what a lovely orphan he was sent to the reformatory. 10 years old was his first glory. Got caught stealing from a nun. Now his love story had begun.
The pure romance was undisputed. Angelic columns and holy ones. Angelic columns and holy ones.
All those beautiful boys. Tattoos of ships and tattoos of tears. All those beautiful boys, pimps and queens and criminals. Tattoos of ships and tattoos of tears.
beautiful boys.
Alors, on vient d'évoquer le frère Clémentine Hennel. Je crois que c'est le moment d'en parler, effectivement, parce que dans Plein Phare, c'est peut-être celui qu'on entend le moins, oui. Mais c'est celui autour de duquel tourne le roman, en fait, parce que c'est lui qui a été le facteur déclenchant quasiment des détresses des personnages présents.
Oui, tout à fait. Donc ce frère, Madi, est un jeune homme un peu plus âgé que Yaya, un jeune homme qui pourrait avoir tout pour lui, mais qui n'a jamais été très bien dans sa vie. Je donne pas de raison particulière, j'avais pas envie de trouver des explications, des motifs. On le suit un petit peu enfant, on le suit adolescent, on a surtout des paroles rapportées, donc la mère, le frère qui disent des choses sur lui. Et puis Madi, on a son point de vue, il y a trois passages dans le livre qui correspondent à ces trois passages à l'acte, à ces trois meurtres. Et il les raconte, il est enfermé en prison et il procède à un retour sur lui et il va raconter ses meurtres. Et donc oui, beaucoup de choses gravitent autour de lui parce que c'est un acte terrible. Moi, j'avais envie d'aller chercher de ce côté-là comment est-ce qu'on passe de l'autre côté. Donc Madi n'est pas hanté par la culpabilité, loin de là. C'est un homme assez cynique, assez ironique, qui va revivre ses moments avec beaucoup de détails, voilà, un certain humour noir. Et en fait, on avait exploré les conséquences de ses actes, notamment sur sa mère, mais sur son frère, et puis sur tout ce que ça a créé à côté, en fait.
Bah, ce qui est intéressant avec ces passages concernant Madi, c'est que c'est pas manichéen. Il n'y a pas une cause. C'est pas les descriptions des tueurs en série habituels qu'on peut voir dans toutes les mauvaises séries télé ou les mauvais livres policiers. On s'aperçoit que là, c'est extrêmement complexe et c'est ça qui fait l'intérêt de ces passages.
Merci beaucoup. Oui, j'essaye vraiment de ne pas faire des choses manichéennes. Je trouve que les gens et la vie, voilà, sont faits de contrastes et que oui, rien n'est noir ou blanc. Et donc, même une personne comme Madi qui va tuer, je voulais pas en fait donner d'explication trop claire. Je vais laisser la lectrice ou le lecteur se faire son avis, son idée. On peut même s'attacher à certains moments à Madi. Voilà, c'est un personnage très trouble, très étrange et j'avais pas envie d'en faire un meurtrier classique, un tueur en série qui peut défrayer la chronique et enfin voilà, pas un truc comme on en voit un peu trop.
Et puis bien sûr, il y a Mauve, il faut parler de Mauve, on a évoqué le fait qu'elle était enfermée dans son taxi, qui est cette espèce de carapace de protection aussi d'une certaine manière. Elle aussi est un personnage riche et complexe. C'est la fille dans cette rencontre de trois personnes. Ça a son importance. C'est un personnage qui est plein de vie. Qui aime énormément de choses, mais qui a été empêché par des circonstances que l'on va découvrir peu à peu dans le roman.
Oui, c'est ça. Mauve est une personne pleine de vie, mais qui s'est quelque peu éteinte. Elle aime énormément de choses, mais elle reste un petit peu à côté des choses. Donc son taxi, c'est tout à fait ça, c'est une carapace, c'est une protection. Voilà, c'est une femme qui travaille la nuit, donc c'est une femme qui, par la force des choses, s'est endurcie, qui ne se laisse pas atteindre, qui ne se laisse pas toucher, vraiment, voilà, qui renvoie les gens dans les cordes s'il le faut. Et en même temps, c'est une personne très fragile parce que y a plein de choses non résolues en elle. Il y a des histoires d'amitié, notamment son histoire d'amitié avec Yaya qu'elle a laissé tomber il y a une dizaine d'années et qu'elle ne voit plus. Ça, c'est quelque chose qui la travaille, c'est quelque chose qu'elle va aussi revisiter. Il y a son histoire avec sa mère. Il y a une histoire d'amour un peu en suspens aussi de son côté, mais elle a tout verrouillé pour réussir à fonctionner dans le monde qui est le nôtre. Et elle fonctionne tant bien que mal, mais justement de découvrir que son meilleur ami, celui de qui elle n'a plus de nouvelles depuis un bon moment, se retrouve en UMD, la pousse à s'interroger et à à réexplorer son présent, son passé, et à se demander elle aussi ce qu'elle va bien faire de sa vie, parce qu'à un moment, c'est pas forcément le plus joyeux de vivre la façon dont elle le fait.
Alors, il y a des éléments qui sont importants, Clémentine Hennel, dans Plein Phare. Il y a la littérature, il y a les livres qu'on lit, les carnets qu'on écrit, et puis il y a la musique. Et que ça soit la littérature ou la musique, c'est extrêmement présent et ça ponctue le roman en permanence.
Oui, tout à fait. C'est très important pour moi de montrer ce que les personnages aiment. Pour moi, c'est des choses qui meublent véritablement une vie, un quotidien. Donc, il y a la littérature, il y a l'écriture aussi. Mauve lit beaucoup. Elle écrit, donc ça vient ponctuer toutes ses journées. Il y a le dessin pour Yaya, qui aime les couleurs depuis qu'il est enfant. C'est vraiment son art à lui, son truc à lui. Et il y a la musique aussi, car Mauve, dans son taxi, écoute beaucoup de musique. Moi, j'aime qu'il y ait des références culturelles et qu'il y ait des références populaires. Il y a aussi beaucoup la télévision. Mauve regarde beaucoup la télé-réalité. Et voilà, quand elle a du temps pour elle, en fait, elle le passe souvent aussi dans son lit, à regarder quelque chose, c'est une autre forme d'enfermement. Donc il y a toutes ces références-là, des références aussi à la nourriture. C'est un livre qui parle beaucoup de sensations, de sensations physiques,
oui, de
goût,
sensorialité.
De désir.
Oui, oui, je pense aux pommes potes, mais je pense aussi aux sensations que va redécouvrir Yaya en UMD à un moment où il va neiger. Enfin, les sens sont extrêmement présents.
Oui, c'est très important pour moi de travailler les sens et de travailler quand j'écris le détail. En fait, moi, je m'accroche vraiment au détail dans la vie et donc dans l'écriture. Quand j'écris, je pars souvent d'un tout petit truc. Donc, ça peut être le fait que Mauve aime bien se nourrir de pommes potes quand elle roule la nuit ou du café au lait qu'elle va boire. Voilà, des petites choses comme ça. Et ensuite, je vais dérouler l'écriture à partir de ça. Et puis Yaya, oui, il y a toute une exploration du corps souffrant en fait, parce que certes, il est malade mentalement, psychiatriquement, mais ça a clairement un impact sur le corps évidemment. Puis de se retrouver en UMD, il est dépossédé, donc j'explore son corps souffrant, mais aussi son corps désirant, parce qu'il va se mettre à redésirer des choses, des personnes, voilà. Et puis il va se réapproprier petit à petit lui aussi son corps, voilà. Donc c'est très important pour moi d'explorer la sensation.
Imaginez le soir et les splendeurs barbares accoudées à ton bras. Imaginez courir dans les forêts, rire au rythme de ta voix. Imaginez l'amour, toi et moi dans la tour, les étoiles en plein jour. Imaginez la vie que je n'aurais jamais, en tout cas pas ici. Imaginez l'été et les lumières beurrées qu'il y aurait dans ton cou. Imaginez encore, imaginez plus fort jusqu'à me rendre fou. Imaginez l'amour, toi et moi dans la tour, les étoiles en plein jour. Imaginez la vie que je n'aurais jamais, en tout cas pas ici. Heureusement j'ai ma tête qui m'emmène à la fête parfois. J'imaginais l'amour, c'est tout ce qu'il me reste pour respirer encore. Je l'aimais, cette vie que je n'aurais jamais, en tout cas pas ici.
Et on va donner un exemple pour Yaya qui est que bah, l'accès à la douche en UMD, c'est très, là aussi, c'est très réglementé. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit un temps limité, il n'y a pas d'affaire de toilette, il n'y a rien. Et Yaya est désolé parce qu'il n'a rien pour ses cheveux, quoi. Il n'a pas de shampoing, d'après-shampoing, ni quoi que ce soit. Et c'est Kuba qui est vraiment un infirmier très, très touchant, va lui apporter une compote justement pour pouvoir mettre sur ses cheveux et essayer de lisser ses boucles.
Oui, tout à fait, c'est ça. Mais je m'attache à ce quotidien en UMD, donc c'est vrai qu'on a, on n'a pas grand-chose. Et puis en plus, comme tout est potentiellement une arme au prétexte à se faire mal pour le patient, vraiment, les personnes en UMD, les patients sont dépossédés de tout et n'ont accès à rien. Donc la douche, c'est un temps très limité. Voilà, il n'y a pas de trop de, on leur laisse pas de produits. Et donc Yaya, qui est un homme avec des cheveux longs, des cheveux bouclés, il a envie en fait de ce soin-là et il demande à Sekouba, et en effet, la compote dans les cheveux peut les adoucir et les démêler. Donc Sekouba trouve ce qu'il a sous la main et lui donne ça, tout à fait.
Alors, on évoquait les deux personnages de second plan, que sont les deux mères. Ce sont des personnages importants aussi. Et il y a une espèce de jeu de miroir entre les deux, en fait, dans le roman.
Oui, tout à fait. C'est un roman qui va retracer l'histoire des personnages sur plusieurs époques. Et donc, il y a la mère de Yaya et de Madi qui s'appelle Agapé. Et il y a de l'autre côté la mère de Mauve qui s'appelle Adélaïde. Donc Mauve vit encore avec sa mère, donc ce qui donne lieu à certaines scènes de vie présentes. Mais je suis aussi allée regarder du côté des mères avant qu'elles aient les enfants, juste avant. Et puis pour toutes les deux, leur moment de grossesse, la toute petite enfance de leurs enfants, et aussi ce qu'elles vivent et ce qu'elles pensent maintenant, en fait, que leurs enfants sont grands et qu'ils sont dans des situations de crise.
Alors, on va laisser les auditeurs et futurs lecteurs découvrir l'intrigue qui va se dérouler tout au long du roman Plein phare de Clémentine Haenel, paru aux éditions de Gallimard dans la collection L'Arpenteur. Alors, ce livre, c'est un vrai chemin de libération pour les différents personnages, de résolution. Ce qu'on a pu dire peut donner l'impression que c'est un livre pesant, mais c'est pas du tout le cas, en fait. C'est un livre grave, mais qui est plein de vie.
Oui, merci beaucoup. Ouais, comme je disais, j'aime bien les contrastes. Et donc, j'aborde des sujets qui sont graves, qui sont importants, qui sont pour moi les sujets qui me touche, mais je l'espère avec humour, avec légèreté. Et on parlait des sensations, des détails, tout ça, ça vient donner de l'air, de la lumière, plein de petites bouffées de vie aussi. Et je ne pense pas que ce soit un livre pesant à lire ou triste. Voilà, je pense que c'est un livre qui peut se lire dans une certaine douceur aussi, malgré ses thématiques.
En tout cas, merci Clémentine Haenel de nous avoir donné Plein phare. Et question rituelle dans cette émission, est-ce que vous avez déjà un projet pour un prochain livre ?
Oui, je suis en train d'écrire un troisième roman. Donc, j'ai commencé ça il y a quelques mois et j'avance doucement, mais sûrement, je l'espère. Et écoutez, je suis pas la plus forte pour parler de l'écriture quand je suis en train d'écrire, mais j'ai hâte d'avancer dans ce livre et de le donner à lire plus tard.
Il y aura un thème précis ?
Oui, je vais parler cette fois-ci d'amour et d'amour obsessionnel. Voilà. Et ben, un peu de la folie toujours, mais de la folie du côté de la relation amoureuse.
Et ben, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour parler de ce prochain livre. En attendant, lisez Plein phare, c'est de Clémentine Hennel. C'est paru dans la collection L'Arpenteur chez Gallimard. Merci beaucoup Clémentine.
Merci beaucoup à vous de m'avoir reçu. C'était un plaisir.
Roi du libertaire, roi du libertaire, roi du libertaire, roi du libertaire.
Voilà, on arrive à la fin de cette émission. C'est Radio Libertaire, c'est Idéaux et Débats. C'était Laurent Petit-Mangin pour Les Terres Animales, paru à la Manufacture de Livres, et Clémentine Hennel pour Plein phare, paru chez L'Arpenteur, chez Gallimard. C'est la fin d'année. On va vous souhaiter un bon passage en 2024 et on se retrouvera donc pour la rentrée littéraire de janvier avec pas d'émission le 2, non, il n'y aura rien. On se retrouvera donc dans le courant du mois de janvier avec au programme des invités qui nous plaisent bien puisque nous aurons le plaisir de découvrir le nouveau livre de Patrick Pechereau ainsi que celui de Valérie Zenati pour commencer cette année. Voilà, d'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire et portez-vous bien.
Du libertaire, roi du libertaire, roi du libertaire.
Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.
Radio Libertaire 89.4. Nous sommes au grand soir du mardi, l'émission du groupe Libertaire La Rue. Ce soir, nous allons parler du greenwashing autour d'un livre qui s'appelle Greenwashing, manuel pour dépolluer le débat public aux éditions du Seuil. C'est un livre collectif. On reviendra tout de suite à quel est ce collectif. Et nous recevons l'une des membres de ce collectif, Laure Tellière. Alors, sauver la planète, croissance verte, transition énergétique, écologique, consommation responsable, etc. Production, consommation, discours politique semblent tous être animés de l'ambition vertueuse de nous amener vers un avenir soutenable. En réalité, cette communication regorge d'escroqueries sémantiques et de stratégies d'enfumage qui évitent de remettre en question le système responsable de la catastrophe. Alors, on reçoit donc Laure Tellière. Laure, est-ce que tu peux te présenter brièvement et est-ce que tu peux présenter le collectif Atécopole ?
Oui, bonjour. Donc moi, je suis maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'université Toulouse-Jean Jaurès. J'appartiens au laboratoire Framespa. Et donc, dans mon parcours universitaire, j'ai travaillé d'abord sur une perspective d'histoire culturelle. Je suis devenue spécialiste de l'histoire des migrations, notamment en co-dirigeant la revue Diaspora, Migration, Histoire et Société. Et maintenant, je travaille plutôt la question écologique et donc notamment la place que peuvent occuper les récits historiens dans la compréhension de ces enjeux-là et de où nous en sommes. Et par ailleurs, je suis cofondatrice d'un collectif, effectivement, à Toulouse qui s'appelle l'Atécopole, l'Atelier d'écologie politique, qui est un collectif, en fait, qu'on a fondé il y a 4 ans. Pour justement essayer de faire face en tant que scientifique aux enjeux écologiques, pour essayer d'adopter une autre manière d'intervenir dans le débat public et de porter ces enjeux-là et de s'y inscrire de manière engagée en fait.